应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père. Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Alors cette semaine, notre toile accueille deux films venus de l'Est avec Glory de Kristina Grozeva et Petar Valchanov et 11 minutes de Jerzy Skolimowski. Quant aux yeux et aux voix, ce sont ceux d'Alice et Marie qui se joignent au mien aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Rémi.
Bonjour Rémi.
Et nous commençons tout de suite avec Glory, donc film bulgare qui suit Tsanko, un cantonnier assez pauvre de la campagne bulgare, qui trouve un jour sur une voie de chemin de fer une énorme quantité de billets de banque et il décide d'appeler la police plutôt que de les garder. Pour le remercier, le ministre des Transports organise une grande cérémonie où il lui remet solennellement une montre. Petit problème, lors de la cérémonie, on lui a subrepticement pris la montre qu'il tenait de son père pour pas qu'il se retrouve avec deux montres, et la montre qu'on lui a donnée ne fonctionne pas. Il entame donc une espèce de longue quête pour retrouver la montre de son père, sa vieille montre, qui se transforme en grand conflit politique des petits contre les grands, où il se fait écraser par ce ministère, pour un final pour le moins étonnant. Mais nous reviendrons dessus, et d'abord peut-être quel est votre avis sur ce film, Marie-Alice ?
Moi c'est un film que j'ai bien aimé, pas adoré, mais que j'ai bien aimé, ouais.
Moi aussi, j'ai trouvé que c'était très bien mené et que c'était à la fois plaisant et assez glaçant quand même.
Ouais, bon. Très glaçant, hein. c'est un peu comme le côté bureaucratie, il y a le côté Daniel Blake, mais en... encore plus grinçant, quoi.
Grinçant, déjà.
Oui, en grinçant. En grinçant, en cynique, en bureaucratique, en froid. Ouais.
Et en absurde.
En absurde, ouais.
Bon, alors, je suis peut-être pas aussi emballé par ce film. J'aime beaucoup la démarche, j'aime bien le scénario, j'aime ce côté grinçant, mais j'ai l'impression qu'il y a un rythme qui prend pas. La partie comédie, au début en tout cas, qui dérape ensuite, mais cette première partie m'a pas semblé assez poussée dans sa dynamique comique. De même que la partie très très tragique, je trouve qu'il y a un petit défaut de rythme, un petit défaut d'intensité. Et il n'y a que vraiment la dernière scène qui est un petit peu un énorme clin d'œil et une scène où les réalisateurs s'amusent, mais qui là, pour le coup, fonctionne très très bien et elle résume parfaitement la démarche du film, qui est de vraiment nous asséner cette situation grotesque et de la faire dériver en quelque chose de très très tragique.
Ouais.
Et ce point culminant fonctionne bien, j'ai trouvé que le reste m'a démarré jamais vraiment, en fait.
Je suis d'accord sur le point culminant, enfin vraiment les 15 dernières minutes, là, les retournements de situation, on va pas spoiler quoi que ce soit, mais vraiment, j'étais dedans, quoi, j'y ai cru. Le début, je vois ce que tu veux dire sur le défaut de rythme. Bon, en fait, déjà le côté comique, enfin vraiment, ça, il a pas réussi à m'atteindre, j'ai pas vu de comique. Pour moi, dès le début, c'est pas... C'est déjà un peu glinçant.
C'est ironique.
Ouais, mais même ça, ça m'a pas tiré de sourire ironique, quoi. Ça, de ce point de vue-là, le côté comique, je l'ai vraiment pas trouvé réussi. Ça, je suis d'accord.
Peut-être un point finalement assez technique, mais qui, je pense, nuit pas mal au rythme des dialogues, entre autres, c'est d'avoir choisi comme marqueur de ce personnage, de prendre un personnage bègue, alors pas tant pour se moquer de lui que pour permettre aux autres de se moquer de lui et d'avoir ce mépris de classe vis-à-vis de lui. Mais du coup, ce trait de ce personnage fait que énormément de scènes sont extrêmement ralenties par les bégaiements du personnage, et je trouve qu'à la longue, c'est quelque chose qui lasse aussi dans ce personnage, qui est finalement plus réussi quand il est mutique et quand il est un petit peu écrasé par les autres que justement quand il s'exprime.
Ouais, parce qu'il est écrasé sur tout le film. Enfin, je pense qu'il a encore moins de temps de parole que La Belle au bois dormant, tu vois. Donc c'est quand même dire, quoi.
Moi, je suis assez d'accord toujours sur le rythme, mais en même temps, parfois, il y a une certaine lenteur qui fait paraître les choses bien plus glaçantes et bien plus méprisantes que si c'était peut-être plus intense et plus dense comme construction. Donc, je suis complètement d'accord que ça gagnerait à avoir un rythme un peu plus soutenu. Et en même temps, parfois, c'est très bien vu, je trouve.
Alors, c'est ce qui est sûr, c'est que c'est très bien vu et que le propos est assez pertinent et intelligemment mené. Tu parlais de cette administration qui a quelque chose d'assez kafkaïen, mais un kafkaïen vu de l'intérieur. C'est vraiment la technocratie en action. Et il y a quelque chose de, oui, vraiment très glaçant là-dedans.
Puis ouais. Le côté relations publiques aussi, qu'on ne trouve pas du tout dans des trucs de Kafka ou dans beaucoup de choses sur la bureaucratie, apporte... je sais pas, un côté un peu série télé où il y en a beaucoup, on voit suivre une équipe de journalistes ou une équipe de consultants politiques. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très... Ce que les scènes les plus drôles étaient les scènes avec l'équipe des relations publiques, avec tous ces petits rapports de faux pouvoirs, de moqueries qui existent aussi entre eux et pas juste envers le pauvre Pecnot débarqué de la campagne.
Ouais, sur l'immobilisme de la bureaucratie aussi, il y a pas mal de scènes qui fonctionnent comme ça avec deux plans. Un premier plan où il se passe rien et en fait l'action est au second plan. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Par exemple, quand le personnage Sanko vient chercher sa montre, on est censé lui avoir laissé la montre à l'accueil. Et on voit le mec de l'accueil, quoi, vraiment immobile, en train de faire sa tâche quotidienne qui a l'air chiante à mourir. Et on revoit Sanko passer derrière la fenêtre, s'apercevoir que c'est pas sa montre, revenir. Je sais pas, cette scène-là, c'est peut-être une des scènes qui a réussi à me tirer un petit sourire dans ce qu'elle dit de toute cette technocratie, toute cette bureaucratie complètement immobile, complètement lente, mais qui est capable de se mouvoir et de se bouger quand il s'agit d'écraser un pauvre Pecnot qui a décidé de se révolter contre le système, quoi.
Ça, et puis ça passe par les oppositions formelles entre le monde de la ville, qui est vraiment résumé à quelques bureaux et à quelques rues.
Le monde de la campagne qui est résumé à quelques lapins.
Et il y a vraiment une opposition formelle qui est assez marquée aussi entre ces deux mondes. On le voit jusque dans la dernière scène, lorsqu'on a ce pas de porte, ce champ contre champ entre les deux personnages et cette dame du ministère qui est complètement absurde dans son tailleur au milieu de cette petite cour.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, il y a effectivement une opposition formelle, ne serait-ce parce qu'on le voit toujours, on nous le montre dans le train quand il va à la ville, et inversement. Et en même temps, je trouve qu'il n'y a pas de manichéisme dans ce film, et ni là-dedans, il n'y a pas de vraie opposition entre... Il y a une opposition entre les bureaux et les pauvres bicoques, mais il n'y a pas d'opposition entre la ville et la campagne réelle. La ville est très très verte, par exemple. Enfin, je sais pas, il fait... Dans tout ce film, il fait beau, il y a des belles fleurs et des arbres. Et le personnage lui-même de Tsanko, on n'est pas non plus en totale empathie avec lui. Enfin, il va aux putes, il n'est pas toujours très... Il n'est clairement pas sympathique, il se fait juste écraser par une bureaucratie.
Oui, mais de toute façon, le fait que c'est un personnage très mystérieux qui parle pas beaucoup, il est rendu mystérieux par le fait que, par exemple, dans tout le début du film... On le voit pas vraiment, on voit pas vraiment son visage. Il y a toujours cette casquette très basse sur les yeux qui fait qu'on voit pas son regard, cette espèce d'immense barbe qui lui bouffe le visage. Ça participe du fait qu'on le cerne pas. Et à l'inverse, il y a son antagoniste, on va dire, dans le film, qui est la dame du ministère. Je crois, c'est comment elle s'appelle ? Julia, quelque chose comme ça ?
Julia.
Et elle, on est dans sa vie privée.
Elle, ouais, voilà. Elle, on la suit vraiment de bout en bout.
Lui n'a pas vraiment de vie privée, j'ai l'impression.
Les lapins. Mais oui, et c'est ça qui est intéressant, la question que tu soulèves, c'est-à-dire quelle est notre place de spectateur là au milieu, parce que clairement notre empathie ne va ni vraiment à l'un ni vraiment à l'autre. Quelque chose est fait pour qu'elle aille justement presque à cette dame du ministère en montrant sa vie privée, mais sans que ça aille jusque-là. Et du coup, notre place est extrêmement, extrêmement intéressante et extrêmement... gênante quelque part, parce qu'on se retrouve comme témoin de cet écrasement, témoin impuissant aussi de tout ce qui se passe.
Et puis avec ce personnage Julia qui est complètement antipathique au début, puis on la voit aller jusqu'au bout dans son espèce de rage d'aller écraser celui qui ose faire chier le ministère, quoi, et qui devient, je sais pas, je trouvais un peu, enfin, j'ai eu un peu d'empathie pour elle à la fin, quoi. On va toujours pas révéler le dénouement, mais mais bon, oui, quand elle panique, ce moment où elle panique et où elle boit pour oublier ce qu'elle pense avoir commis, Ça, c'était assez réaliste comme scène, j'ai trouvé. Cette espèce de... vraiment de panique pure, quoi.
Bah, là aussi, j'aurais aimé que le rythme s'intensifie un peu plus sur ces scènes-là, que la caméra, soudain, soit un petit peu plus paniquée aussi.
Déjà, de la mettre dans une voiture alors qu'elle panique, tout de suite, ça fait un peu tomber la panique, mais ça oppresse. Ce film est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il essaye et... Mais il est... Enfin, je trouve que la panique monte quand même en crescendo jusqu'à la fin. Il y a un rythme à la fin assez soutenu.
Eh bien, chers auditeurs, on vous laissera vous faire votre avis vous-même en salle, par exemple chez nos partenaires des cinémas Lumière pour ce film, donc, Glory. Et nous te retrouvons donc tout de suite, Alice, pour le deuxième film dont nous parlons aujourd'hui, à savoir 11 minutes de Jerzy Skolimowski. Alors, Alice, d'abord, qu'est-ce que ça raconte ?
Ça raconte dans un quartier ultra-moderne de Varsovie, en Pologne, des événements concomitants qui se déroulent sur une période totale de 11 minutes, sachant que le film dure 1h21, c'est-à-dire...
11 au carré.
Voilà, 121. Et sous divers angles, diverses images, donc formellement c'est assez intéressant. On a des caméras de surveillance et autres. Et diverses trajectoires de personnages qui se croisent ou non. On a un vendeur de hot dog, une actrice sexy, un coursier, un homme d'affaires, un jeune braqueur et d'autres. Et c'est donc 11 minutes de leur vie.
D'accord, et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
J'ai trouvé que ce film tombait à plat. Formellement, donc, c'est vraiment assez intéressant, mais c'est très très froid. Y a donc beaucoup de montages parallèles et de toutes ces trajectoires de personnages. Et aussi, on a une sorte d'intrigue qui, au début, apparaît assez anecdotique, mais qui est censée prendre de l'ampleur à la fin. D'une tache noire qui apparaît et disparaît dans le ciel et qui à la fin vient prendre tout l'écran. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était ou bien un thriller dont je n'ai pas compris l'enjeu et sans réel suspense, ou bien un blockbuster sans vraiment d'action, ou bien un film qui veut dénoncer notre surveillance par des caméras de surveillance, par des vigiles, par... toute une société de surveillance et d'oppression, mais qui en fait n'est dénoncée juste par description et sans qu'il y ait de fin explicative. Tout reste très très froid. Il y a beaucoup de films qui marchent sur le même principe en suivant plusieurs trajectoires qui se croisent. Ou juste plusieurs intrigues dont on perd un personnage pour en suivre un autre. Mais ces films-là, généralement, on s'attache aux personnages, au moins on les méprise, quoi. Là, il y a vraiment juste de l'indifférence pour les personnages. C'est pour ça que ça ne marche pas du tout. On n'a aucune empathie, on n'a pas de mépris, rien. Alors qu'ils sont tous assez détestables. Et même ça ne marche pas, j'ai l'impression. Et tout se finit dans une scène très grotesque où ils meurent tous dans un accident au milieu. Et puis après, on voit cette tache noire dans le ciel. Donc, je n'ai pas du tout aimé et je ne vous conseille pas du tout d'aller voir 1h21 de 11 minutes.
Donc voilà, tant le scénario du coup que le message sont assez plats et pas très compréhensibles.
Oui, par moments, ça se rapproche plutôt de l'installation vidéo. Il y a quand même des trouvailles au niveau de la bande-son et des images de ciel. Il y a des images qui se forment par addition d'images de caméras de surveillance. Mais le scénario est vraiment terriblement plat. Et il y a une seule trajectoire de personnage qui est la seule où on est vraiment oppressé et où le côté thriller est vraiment ressenti par le spectateur, en tout cas pour ma part. Mais tout le reste est trop froid.
Peut-être quelque chose, ce que tu me dis me fait penser un petit peu au Nocturama de Bertrand Bonello.
Oui, mais...
Ça va dans cette direction, peut-être.
Oui, mais on sent même pas vers quoi tout est dirigé. Dans le Bertrand Bonello, assez vite, l'intrigue est mise en place. Et je suis d'accord qu'il y a le même côté très froid et peut-être le même propos de fond. Mais là, l'intrigue est vraiment très dure à... Même à la fin, j'ai aucune idée de ce que c'est que l'intrigue. Si ce n'est vraiment un jeu formel sur le chiffre 11.
D'accord, donc quelque chose de très très formaliste et qui n'est manifestement pas une très grande réussite. Malgré tout, chers auditeurs, vous pouvez bien vous faire votre idée vous-même si vous arrivez à trouver une séance, puisque le film n'est actuellement plus projeté sur Lyon.
Ted, suit up!
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What? Danger zone.
Say my name.
Eisenberg.
You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata. O plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Et nous retrouvons donc tout de suite Pierre pour nous parler de série. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi. Alors bonjour à vous tous mes chers sériephiles, à vous tous qui aimez le Royaume-Uni, mais aussi les séries d'espionnage, parce que cette semaine, direction donc le Royaume-Uni à nouveau, mais dans un autre registre que l'humour. On va se pencher sur une série d'espionnage, donc adaptée d'un roman de John le Carré, daté de 1993. Nous parlerons de The Night Manager. Encore une série qui s'annonçait faite pour moi. C'est une mini-série de 6 épisodes d'une heure qui raconte une histoire complète et qui se passe dans le monde actualisé de l'espionnage. Produite par la BBC One, ça ne pouvait que vendre du rêve. En plus, c'est du John le Carré actualisé qui se passe d'abord pendant la révolution égyptienne de 2011, puis en 2015, période de la production de la série. Alors je vous le dis tout de suite, cette série me fait un effet assez étrange. Je les trouve vraiment plein de points positifs, mais quand même, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui manque. Je n'arrive pas trop à mettre la main dessus. Bon, l'histoire est un peu compliquée si on rentre dans les détails. Alors en gros, Tom Hiddleston joue Jonathan Pine, un agent de nuit dans un hôtel de luxe en Égypte. Sa meuf meurt, bouhou, il est triste, elle a été tuée à cause du grand méchant vendeur d'armes Richard Roper, campé par Hugh Laurie. Du coup, l'agent des services britanniques Angela Burr, joué par Olivia Colman, l'utilise pour infiltrer le gang de Roper qui aurait des liens avec les services secrets américano-britanniques. Sauf que le bras droit du méchant, le Major Corcoran, joué par Tom Hollander, a des doutes sur Jonathan Pine, surtout que celui-ci décide bien sûr de tomber amoureux de Jed, la copine de Roper. Voilà. Et encore là, c'est juste la trame épurée, classique, voire cliché. Je vous épargne toute la partie en Égypte, les liens entre les personnages, la manière dont Pine rentre au service de Roper et monte en grade, la backstory de Jed et le fils de Roper, bref, il y en a plein, plein, plein. Alors voilà, le jeu d'acteur est vraiment top, hein, c'est une production britannique. Hugh Laurie dans le rôle du méchant est très convaincant. Tom Hiddleston dans le rôle du héros, lui, beau gosse, un peu à la ramasse, avec un jeu froid mais charmeur, ça marche plutôt très bien. Olivia Colman, étonnante quand on a l'habitude de la voir dans des séries comiques aux côtés de Mitchell & Webb, par exemple, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. Elizabeth Debicki, sublime dans son rôle de diva emprisonnée par le méchant. Debicki d'ailleurs que l'on peut retrouver sur grand écran dans Les Gardiens de la Galaxie en ce moment. Enfin, Tom Hollander, très flippant et drôle à la fois dans le rôle du bras droit alcoolique du grand méchant, qui s'y croit un peu trop. Ça fait donc un décalage particulièrement intéressant, et pour rappel, juste Tom Hollander a joué le méchant dans Pirates des Caraïbes 3. Voilà, voilà. Donc ce que je trouve assez drôle justement dans cette répartition des personnages, c'est qu'ils ne correspondent pas du tout aux images que j'ai de ces acteurs. Hugh Laurie est pour moi un humoriste britannique, ayant monté une série avec Stephen Fry par exemple, avant de travailler dans Doctor House bien sûr, et Tom Hiddleston est l'acteur anglais le plus charmant d'Hollywood. Et là, on les voit plonger dans un univers très sombre et sobre. On reconnaît bien sûr leur talent d'acteur shakespearien à la sauce anglaise. Pour la réalisation, je n'ai pas grand chose à dire. Elle n'offre rien de vraiment particulier. Aucune surprise, c'est une mise en scène sobre, efficace, elle ne propose rien de novateur, mais marche vraiment bien pour ce type d'histoire, donc encore une fois, rien à redire là-dessus. Maintenant, sur les aspects négatifs, pour essayer de comprendre, justement, pourquoi j'ai un goût un peu bizarre en tête en repensant à cette série. Alors pour les aspects négatifs, je vais pas beaucoup m'étendre, parce que comme j'ai déjà dit, cette série est parfaite. Il y a toutefois un problème inhérent, je dirais, au code de l'espionnage. C'est compliqué, voire parfois dur, de suivre le fil par moment. Si on se concentre trop sur la vie du personnage, sur son évolution, on risque de perdre la vision globale, et donc on ne comprend plus trop l'intérêt global derrière les scènes. Après, ça fait partie des codes du genre. Mon avis personnel est que ce qui compte dans ce genre de scène qui porte à confusion, où on introduit d'autres personnages liés au méchant par exemple, le but n'est pas de montrer que le plan du méchant avance, mais plus de montrer l'évolution du personnage principal en tant qu'agent infiltré. Je pense ici par exemple à une scène dans un restaurant où les réflexes de Night Manager de Jonathan Pine reviennent face à la brutalité de Corcoran. Tout au long des 6 épisodes, on peut facilement perdre le fil de qui est qui et qui veut quoi en dehors des personnages principaux. Un peu comme dans l'excellentissime film Tinker Tailor Soldier Spy de Thomas Alfredson avec Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, etc. Encore une autre adaptation d'un roman de John le Carré que je vous invite à aller voir le plus vite possible si vous aimez les films d'espionnage et la guerre froide. Je pense que ce qui m'a le plus dérangé, ce qui m'a vraiment bloqué, empêché d'en garder un super souvenir justement de The Night Manager, c'est ce côté trop parfait, trop perfectionniste. Alors attention, hein, je ne dis pas que faire une série parfaite d'un point de vue technique c'est mauvais. Juste là, ça fait qu'il manque quelque chose. L'histoire tient la route, elle est bien écrite. Les acteurs sont bons, aucun souci là-dessus. Les lieux de tournage sont sublimes, dans la Méditerranée, etc. Il y a les moyens, voilà, ça c'est sûr. Bref, on pourrait croire que tout est absolument parfait. Mais je trouve tout ça trop rigide, en fait. Pour le dire rapidement, on dirait une série à l'image du stéréotype des Anglais. Parfaitement droit et efficace, mais sans vraie âme. Je vais essayer de m'expliquer. Une série doit créer une ambiance, une atmosphère pour vraiment accrocher. Comme je vous l'avais dit en direct. Il faut donc que la série ait une âme, soit-elle drôle, ou touchante, ou attendrissante, ou même flippante. On peut s'attacher personnellement au personnage, on peut être charmé par l'ambiance musicale, ou simplement historique. On peut même accrocher à une série juste parce que l'humour qu'elle dégage résonne avec son humour personnel. Mais The Night Manager semble mettre de côté justement cette forme d'âme qu'on peut trouver dans les séries. C'est un film, en fait, qui est découpé en 6 parties. Je pense que c'est ça le problème majeur de cette série, et en général je pense des séries adaptées de bouquins. Si on essaye de vraiment coller à l'œuvre d'origine, on se retrouve à créer un film long, tout simplement. La série n'est plus pensée en termes d'épisodes qui vont se compléter les uns les autres et vont chercher à créer une narration propre. Avec The Night Manager, je pouvais enchaîner les épisodes sans me rendre compte qu'il y avait une coupure, que chaque épisode était construit comme un épisode à part entière. Après, loin de moi de dire que c'est un tort, je dis juste que cette série m'a fait l'impression d'un film, et du coup ça colle pas trop. Et puis sur l'aspect technique, tout est trop parfait, à tel point que ça en devient lisse. Alors oui, Tom Hiddleston joue bien, Elizabeth Debicki est magnifique et Hugh Laurie est excellent, mais on n'en attend pas moins d'eux et ils ne nous étonnent pas des masses. Il y a de l'action, du suspense, une intrigue géniale, après tout c'est du John le Carré, mais il manque une touche pétillante de vie. En vrai, c'est loin d'être une mauvaise série, mais c'est une bonne série comme une autre, sans surprise détonnante à l'image de l'ambiance rock de Peaky Blinders par exemple, qui se passe pourtant en 1921 et est une autre production BBC. Alors j'accorde à The Night Manager 13 dossiers top secret sur 20 grands vilains vendeurs d'armes, avec la mention « Thème de beaux acteurs britanniques joués hyper bien dans des décors méditerranéens somptueux, cette série est faite pour toi. »
Je continue comme d'habitude avec les petits conseils de sortie cinéma pour cette semaine, et puis d'abord quelques sorties de la semaine, avec pour commencer Le Christ aveugle de Christopher Murray, qui suit Michael, jeune mécanicien chilien qui est convaincu d'avoir une révélation divine. Lorsqu'il apprend l'accident d'un ami d'enfance, il entame alors un pèlerinage pour aller à son chevet accomplir un miracle. Et les villageois l'érigent alors en nouveau Christ, capable de soulager leur pénible vie dans le désert. Un film éminemment social qui interroge le rôle et les limites de la foi. Et puis Sayonara de Koji Fukada, le réalisateur de Harmonium dont nous discutions récemment ici même, se penche avec une poésie mélancolique sur le sort d'une femme solitaire voyant s'éteindre dans un futur proche un Japon ravagé par une catastrophe nucléaire qui n'est pas sans rappeler quelques événements ayant traversé le Japon en 2011. Je poursuis avec I Am Not Your Negro de Raoul Peck, ce film documentaire qui a d'ores et déjà fait beaucoup parler de lui et gagné de nombreux prix, retrace la lutte des Noirs américains pour leurs droits civiques avec comme fil d'Ariane un texte inédit de James Baldwin. Le résultat est une mise en perspective d'une grande acuité de la situation actuelle aux États-Unis, nous annonce-t-on, appuyée sur un travail artistique d'une grande qualité. Et justement, en parlant de documentaire et de mise en perspective de l'actualité, le 12e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient est présenté cette semaine aux Lumières Bellecour. 5 documentaires, dont plusieurs inédits, seront projetés avec, entre autres, « Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans », titre magnifique, « Regard croisé de 3 femmes sur la guerre d'Algérie » ou encore « Sonita », grand prix du jury à Sundance qui suit le destin d'une jeune fille qui se bat contre un mariage forcé, film qui a recueilli les critiques les plus favorables à sa sortie. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'à samedi au cinéma Lumière Bellecour. Et puis à l'Institut Lumière, les mois de mai et de juin vous offrent une programmation de choix avec entre autres une grande rétrospective consacrée à Claudia Cardinale, actrice majeure qui a marqué le cinéma avec des rôles aussi splendides que diversifiés et des films aussi monumentaux que Le Pigeon, Le Guépard, Il était une fois dans l'Ouest ou Fitzcarraldo. Une conférence lui est d'ailleurs consacrée ce lundi, suivie d'une projection de Sandra de Luchino Visconti. Et auparavant, ne manquez pas 8,5 de Fellini, chef-d'œuvre total qui sera projeté ce soir, samedi et dimanche à l'Institut donc. Et pour finir, dans un tout autre genre, Scarface de Brian De Palma sera projeté ce dimanche au Ciné-Café Aquarium à Croix-Rousse. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour ce 57e numéro. Aujourd'hui, pour le cinéma, c'était Rémi Cerda, Marie Lécuyer, Alice Bocara et pour les séries, Pierre Lemoelle. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions et à commenter celle-ci sur la page de l'émission. Vous pouvez également rejoindre notre toute nouvelle page Facebook qui compte à l'heure de l'enregistrement déjà 28 j'aime. Et d'ici là, bonne semaine à tous dans les salles obscures.